Bonjour, chers amis. Écoutez, aujourd'hui, évidemment, l'actualité m'a devancé puisque hier soir, j'ai enregistré un podcast sur Donald Trump qui s'appelle La haine de Trump. Et évidemment, je ne pensais pas que ce podcast serait autant d'actualité, même si on sait que l'actualité de Trump est extrêmement fournie. Alors, j'ai décidé de ne rien changer, de publier le podcast avec un jour d'avance, mais de ne rien changer au contenu. J'ai simplement décidé de mettre en avenant à ce podcast et en préalable à ce podcast ce que je suis en train de vous dire maintenant. Bien entendu, si la même chose était arrivée à Joe Biden, on aurait immédiatement accusé le discours de haine ambiant, etc., etc. C'est d'ailleurs ce que ne manqueront pas de faire les Bacharan et autres Gérard Araud et Catherine Gentil et tout ce que vous verrez aujourd'hui sur vos chaînes d'information préférées. Bien entendu, hein, tout ça est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de Trump. En tout cas, on peut d'un côté évidemment remercier la Providence du miracle qui a eu lieu et qui a fait que le 45e président des États-Unis est sain et sauf. En revanche, bien sûr, on ne peut qu'être infiniment attristé de la mort d'un spectateur au cours de cet échange de tirs qui a eu lieu donc à Buckler en Pennsylvanie à 18h hier soir, heure locale, c'est-à-dire après que j'ai enregistré ce podcast. Donc ce podcast sortira avec un jour d'avance et je vous en souhaite une bonne écoute.
Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voici toujours fidèles au poste avec notre podcast mensuel. Eh bien, pour ce mois de juillet, dans la torpeur de l'été, parce que ici à Moscou, on a chaud, et en plus, j'ai arrêté l'air conditionné parce que je suis en train d'attraper le rhume. Bref, j'étais très très mal fichu ce matin, et là ma voix s'est améliorée, donc c'est pour ça que j'enregistre ce soir. Nous sommes la veille du 14 juillet, au moment où commence cet enregistrement, et nous allons évoquer, donc je suis seul pour évoquer le retour de Donald Trump, qui, vous vous en doutez, n'est pas sans me faire plaisir. Alors, nous avons très souvent dans le blog évoqué Donald Trump. Je ne suis pas sûr de l'avoir évoqué dans un podcast. En tout cas, ce sera chose faite avec ce podcast du mois de juillet. Et je me suis aidé de la critique d'un reportage de LCI. Vous savez que nous aimons beaucoup ici LCI pour son objectivité, voilà, et son. Et sont pleins d'informations. Nous avons pris un reportage de LCI qui s'appelle Trump, la soif de vengeance. Déjà avec le titre, ça sent l'objectivité, hein, tout de suite. Mais vous allez voir que en matière d'objectivité, on est tout à fait servi, puisqu'on a la Bacharan, hein, l'inénarrable Nicole Bacharan, qu'on ressort de la naphtaline chaque fois qu'on a besoin d'un avis favorable sur les États-Unis et surtout avis favorable sur les démocrates. Ensuite, on a Catherine Gentil, donc grand reporter de TF1, Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis et représentant permanent, enfin ancien représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York, Philippe Étienne, lui aussi ambassadeur, Jean-Éric Brana, journaliste. Guillaume de Bray, le fils et le petit-fils et l'arrière, enfin de la famille de Bray qui vit au crochet de la République depuis bientôt un siècle, hein, en fait, voilà. Et puis Anne Toulouse, qui nous a gratifié d'un livre qui s'appelle Bienvenue dans la tête de Donald Trump, rien que ça. Alors, ces gens ont un point commun, c'est qu'ils ont ils détestent Trump, en fait. Ils ont tous fait ils ont tous écrit des pamphlets, en gros, qui tournent à peu près autour de la même chose, c'est-à-dire que Trump est un fou malade, il invente n'importe quoi. Et on se souviendra que au cours de la campagne de 2016, Nicole Bacharan avait écrit que Donald Trump ne serait jamais élu président. C'est ce qui s'appelle être visionnaire. Alors moi, je suis pas le malin parce que c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. Moi, je sais que j'avais dit que Joe Biden ne finirait pas son mandat puisque déjà en 2020, il n'avait pas été en mesure de faire campagne tellement il était sénile et affaibli. Alors, c'est très malheureux, mais bon, tout le monde n'est pas obligé de devenir président des États-Unis quand il est sénile. Et donc, j'avais dit qu'il ne finirait pas son mandat. Je me suis peut-être trompé, encore que il y a loin de la coupe aux lèvres, il reste 6 mois de mandat et beaucoup de choses, bien entendu, peuvent se passer. Nous avons vu l'état dans lequel a débattu Joe Biden. Nous avons vu la belle démonstration de lucidité et d'acuité intellectuelle qu'il a faite lors du sommet de l'OTAN. Bon, tout ça, je crois que parle beaucoup beaucoup mieux et beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons dire. Mais je n'oublie pas qu'à l'époque, quand on parlait de la sénilité de Biden, on était considéré comme complotiste, on était considéré comme conspirationniste, on était considéré comme voilà, c'était des inventions de la fachosphère. Bon, voilà, désormais on le sait, hein, un complotiste, c'est juste celui qui découvre et surtout qui dit la vérité avant tout le monde. Aujourd'hui, ça devient très très compliqué de la cacher, la vérité. Et s'il y a une chose en tout cas qui est certaine, c'est que Donald Trump est beaucoup plus en forme que son successeur, puisque malheureusement, successeur, il y a eu. Et donc, Trump est en train de. Enfin, est en train, depuis quelques mois déjà, puisqu'il a véritablement pulvérisé tous les records aux primaires des Républicains, eh bien, il est le candidat à la présidence, à la succession de Joe Biden, qui lui-même lui a succédé. Voilà, c'est assez rare pour être souligné, je crois que c'est sans précédent. Au niveau historique, qu'un président des États-Unis revienne, s'il est élu et s'il revient. À titre personnel, j'en doute un peu, hein. Je pense que il va falloir inventer quelque chose pour que Trump ne revienne pas. En tout cas, ces gens-là sont absolument furax. Donc on a le reportage qui s'appelle Donald Trump, la soif de vengeance. Franchement, je comprends pas pourquoi. Déjà dans le titre, il y a l'expression du dépit. Je crois qu'en réalité, Trump ne se venge absolument pas. Trump s'est fait de toute évidence, il va bien falloir qu'un jour il l'admette, Trump s'est fait voler l'élection, donc sa réélection en 2020, d'abord par la pandémie qui est tombée fort à propos et qui a pu générer des conditions exceptionnelles de vote par correspondance, qui a accessoirement aussi évité à Biden de faire campagne, eh bien, tout ça a fait que, évidemment, finalement, Biden a été. Disons, Biden est devenu le président des États-Unis, puisque moi je me refuse de dire qu'il a été élu, il n'a pas été élu. Il y a eu de la fraude absolument massive, il y a eu de la triche avec les votes par correspondance, tout ça n'a pas du tout été transparent. Là, les choses semblent être différentes, malgré tout, ça me paraît assez compliqué. Nous verrons bien. Et donc, la soif de vengeance, Trump, non, il ne se venge pas. Il a simplement décidé, comme il l'avait dit et comme il l'avait promis, de revenir à la présidence des États-Unis. Et il fait campagne. Je pense qu'il a commencé à faire campagne à peu près 6 semaines après avoir quitté la Maison Blanche. Enfin, ça fait 4 ans qu'il fait campagne et malgré toute l'adversité, bon, après on n'est pas obligé d'aimer tout ce que fait Trump et tout. Moi, ça reste Trump. reste le garant des intérêts de l'Amérique et avec tout ce que ça comporte. Donc, mais en tout cas, on peut reconnaître chez cet homme une ténacité et un courage à toute épreuve. Parce que là, il y a des persécutions qui n'en finissent pas. Bref, je ne veux pas faire trop long, je vous laisse tout de suite avec le reportage Trump, la soif de vengeance, que je vais commenter, dont nous allons entendre de larges extraits, et pour lequel vous trouverez le lien si vous souhaitez, si après tout ça, vous avez le courage de le regarder.
L'image a de quoi faire peur. Le sourcil froncé, la grimace agressive, le regard qui tue. L'homme, qui pose ainsi pour la postérité, vient d'être inculpé pour conspiration. Il est accusé, avec d'autres, d'avoir cherché à inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. Bien sûr, cet homme n'est pas n'importe quel criminel. Et c'est ce qui fait de ce cliché un document historique.
On a un prévenu extrêmement combatif. Il a vraiment l'air d'un taureau qui va se précipiter dans l'arène.
Alors je crois que le ton ne peut pas être mieux donné, hein, parce que là vraiment, alors on parle de taureau dans l'arène, on parle d'images qui font peur, on parle d'un criminel au passage. Merci la présomption d'innocence. Donc là, vous voyez tout de suite, bon. Je vous ai très brièvement présenté les divers intervenants dans ce reportage. Hein, là, celle que vous venez d'entendre, c'est Nicole Bacharan. Donc, comme je l'ai dit, le profil de ces gens-là, donc ce sont tous des boomers. Hein, c'est tous, ils sont tous nés entre, en gros, 1955 et 1961, je crois, sauf erreur. Et ce sont tous des boomers et des boomers démocrates. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on aurait pu trouver, je sais pas moi, quelqu'un, par exemple, il y a Trump est représentant en France, il y a un comité, on aurait pu entendre, pareil, il y a un comité de représentants de Donald Trump en France. Non, là on a vraiment souhaité quelque chose de totalement univoque. Bon, on ne peut plus parler de quelque chose de tendancieux à ce stade, on doit parler de quelque chose de complètement un outil de pure propagande. Et je crois que même c'est un outil de haine, quoi.
Ce jour d'août 2023, quand il se présente aux portes du pénitencier de Fulton, en Géorgie, il a préparé son coup.
Ce qui se passe ici est une parodie de justice. Nous n'avons rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, et tout le monde le sait. Je n'ai jamais reçu autant de soutien.
Trump sait tout le profit qu'il entend tirer du cliché anthropomorphique que les Américains appellent le mugshot.
Trump n'a préparé absolument aucun coup. C'est pas lui qui a demandé d'être persécuté judiciairement. C'est pas lui qui a demandé à être traité comme un malfrat. Simplement, Trump sait utiliser les situations. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Et on a l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que. Et c'est là qu'on voit vraiment la pure mauvaise foi, en fait. C'est-à-dire qu'il ne se gêne même plus pour éructer pour baver de haine, quoi. Enfin, c'est très impressionnant. Il a préparé son coup. Non, Trump n'a préparé rien du tout. Trump est dans cette histoire victime d'une persécution. On reviendra, hein, sur ce qui s'est passé à Fulton en Géorgie et ce pourquoi il est accusé. Mais Trump n'a préparé aucun coup. Trump sait simplement rebondir et comme personne, utiliser des situations.
Et Donald Trump en a fait un outil de propagande immédiatement.
Posté instantanément sur les réseaux sociaux, floqué du slogan Never Surrender, ne jamais abdiquer, puis décliné en goodies, mugs, t-shirts, porte-clés, autocollants et compagnie, elle lui rapporte en quelques jours 7 millions de dollars.
Il faudrait qu'on m'explique une fois comment on peut avoir l'outrecuidance de faire passer ce type pour fou. Franchement, on peut ne pas l'aimer, hein. On peut lui trouver des tas de défauts et on peut ne pas être de son bord. Mais là, on est au-delà de la, disons, de la simple, du simple différend politique, en fait. On est bien au-delà. Là, on est vraiment dans la pure haine. En fait, ils ont affaire à une forme de génie, parce que Trump est génial, oui, effectivement. Alors, j'imagine qu'il doit avoir des conseillers en communication, il doit y avoir des gens extrêmement professionnels autour de lui. C'est quelqu'un qui sait s'entourer. Mais tout de même, c'est très impressionnant. Le type, il se fait traiter plus bas que terre. N'importe qui à sa place aurait été brisé, parce que ce sont des traitements. Enfin, le fait de se retrouver au pénitencier de Fulton, de se faire photographier, enfin, avec toutes les procédures, etc., etc. Enfin, moi, à titre personnel, ça m'aurait probablement brisé. Non, lui, pas du tout. Lui, il fait du fric avec, quoi. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je suis assez admiratif. Pas tellement. Bon, voilà, il sait réagir sans aucune espèce de doute. Mais ce qui suscite chez moi l'admiration, c'est la capacité de Trump à mettre ses adversaires en PLS. C'est absolument énorme.
C'est un adolescent vindicatif.
Soit on est avec lui, soit on est contre lui.
Vous n'êtes qu'une demi-portion, ne me parlez pas comme ça.
Trump, c'est une marque politique. C'est l'outrance, c'est l'hystérie.
Adolescent vindicatif, outrancier, hystérique. Vous êtes sûr qu'il parle de Trump? Moi, c'est marrant, je trouve que ça ressemble à un autre personnage, personnellement.
Au soir du 3 novembre, les premiers résultats placent plutôt Trump en tête. Plus tard dans la soirée, quand Biden lui passe devant, il annonce ce qu'il ne cessera plus de marteler.
Thank you.
C'est un moment très triste pour moi. Le moment est très triste. Les Américains sont victimes d'une arnaque. C'est une honte pour notre pays. Nous étions sur le point de gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection.
Ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est que ça marque une constante. En fait, on se rend compte avec le recul. Parce que je crois que cette fraude, en réalité, est tout à fait généralisée. Elle est organisée par les mondialistes et par conséquent, elle est mondiale. Et en fait, on se rend compte que au début, les adversaires politiques sont en tête, et puis petit à petit, le pouvoir reprend du poil de la bête. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 3 novembre 2020. C'est-à-dire qu'au début, ça se passait bien pour Trump. Et puis tout d'un coup, c'est parti en sucette. Et après, bon, il y a eu toutes les outrances avec les votes par correspondance. Enfin, on a eu le résultat que 4 jours après. Enfin, c'était quelque chose de très compliqué. C'est de toute façon une élection qui ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû. Donc effectivement, on est en droit de s'interroger. Mais en tout cas, je remarque la même constance en 2022. C'est pareil. Marine Le Pen au deuxième tour était en tête contre Emmanuel Macron, et tout d'un coup, le résultat, sans qu'on sache bien pourquoi, s'est inversé. Et alors, peut-être qu'il ne faut pas y voir de lien de cause à effet, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu une constante.
Le 2 janvier, il prend lui-même son téléphone. Pendant plus d'une heure, il tente de convaincre l'élu de Géorgie de lui trouver 11 000 voix. C'est l'écart qui le sépare de Biden dans cet état-clé.
Hello, Brad and Ryan and everybody.
Il s'est d'ailleurs beaucoup énervé et comme ça devenait très très pesant pour les personnes en question, elles ont enregistré la conversation.
Et l'échange est à peine croyable.
If we could just go over some of the numbers, I think anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
You should want to have an accurate election. And you're a Republican.
We believe that we do have an accurate election.
No, I know you don't. No, no, you don't. Okay. Whatever. It's a disaster. It's a disaster. Because you know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. I need 11,000 votes. Give me a break.
Qu'un président en exercice appelle un fonctionnaire d'un État fédéré pour lui dire « il faut me trouver des voix en plus », c'est juste inimaginable.
À l'évidence, il a essayé de truquer les résultats, mais il l'a fait de manière tellement maladroite qu'on en est, je dirais, on en est ahuri. On est vraiment dans la panthère rose beaucoup plus que dans James Bond, vraiment.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que c'est honnêtement, cet extrait est juste un tissu de mensonges. Alors, bon, déjà, entre le 3 novembre et le 2 janvier, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé le président des États-Unis, Donald Trump, qui, malgré ce qu'on va appeler l'élection de Joe Biden, reste président jusqu'à la fin de son mandat au 20 janvier 2021. Le président Donald Trump a été extrêmement maltraité eu égard à la dignité de son rang. Donc il y a eu, alors on se souvient, hein, des conférences de presse CNN qui se permet d'interrompre la diffusion des conférences de presse, des journalistes absolument odieux, enfin des choses vraiment d'une violence de la part des gauchistes qui était vraiment quelque chose extrêmement choquant à l'époque. Donc ça a été une première chose. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette fameuse conversation téléphonique dont on entend des extraits dans l'extrait que je viens de vous diffuser. Dans cette conversation, d'abord, les parties de la conversation téléphonique qui sont diffusées, ça faut bien le savoir, les parties qui sont diffusées sont des bouts de conversation tirés de leur contexte. Ce n'est pas des choses qui se suivent, d'accord ? Ils ont pris des morceaux de conversation à divers endroits de la conversation et ils ont diffusé ça. Et en fait, ils les ont mis bout à bout pour faire croire que c'est un tout. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont fait une sorte d'amalgame, si on veut. Donc ça c'est la première tromperie, et elle est de taille, parce que bon, voilà, tout texte hors contexte n'est que prétexte, hein, c'est bien connu. Donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens font volontairement une erreur de compréhension de l'anglais, et de compréhension contextuelle. La conversation dure 1 h 2 min. Je l'ai pour les raisons pour les besoins du podcast, je l'ai volontairement réécouté en entier. Et Trump dit pas il faut me trouver 11 000 voix. C'est pas ça qu'il dit. Trump perd l'état de Géorgie avec un écart de 11 779 voix. D'accord ? Trump accuse l'État de Géorgie, donc le secrétaire d'État qui s'appelle Brad Raffensperger, il accuse les fonctionnaires de l'État et le secrétaire d'État, donc il les accuse. Donc c'est une conversation entre le secrétaire d'État, son staff, il y a deux autres personnes, dont une femme, et donc le président des États-Unis. Et il accuse de plusieurs fraudes. D'abord, il considère que des voix auraient été volontairement ignorées, des votes auraient été ignorés, et ce par centaines de milliers. Ensuite, il accuse d'avoir fait voter 5000 morts. Alors, tout ça est nié, bien entendu, par les fonctionnaires géorgiens, qui, entre parenthèses, sont républicains. Tout ça est nié par les fonctionnaires géorgiens. Donc, on peut dire que c'est parole contre parole. Néanmoins, et ça, c'est une constante qu'on va observer tout au long de cette bataille judiciaire, chaque fois que Trump demande des informations précises sur la manière dont est fait le décompte et demande que des gens à lui puissent assister au nouveau décompte, ça lui est refusé. Prétexte, c'est hors la loi. On ne dit pas en vertu de quelle loi, etc. On dit non, c'est hors la loi, vous ne pouvez pas, vous devez nous faire confiance. Et nous, on a reconté, c'est parfait. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc là, on n'est plus dans le parole contre parole. Mais pour revenir à ce qui est dit dans cet extrait, où on dit « Trump demande qu'on lui trouve 11 000 voix », c'est pas ça qu'il dit. Trump dit « la fraude porte sur des centaines de milliers de voix, probablement 4 ou 500 000 voix, donc un demi-million de voix. Mais moi, je vous demande pas de faire une recherche précise pour connaître l'origine des 500 000 voix qui ont été fraudées. Il suffit que vous puissiez trouver 11 000 voix qui me manquent, qui me reviennent. Et moi, ça me suffit. Après, je ne vais pas vous faire travailler pour rien. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, voilà, le « I need » en anglais, c'est-à-dire « j'ai besoin de 11 000 voix », ça veut dire en réalité, il me manque, tout ce qui me manque, c'est 11 000 voix. Et d'ailleurs, à un moment de la conversation, il dit, vous savez quoi, il m'en manque 11 779, il suffit que dans votre décompte, vous arriviez à 11 780, et moi, je suis parfaitement content, puisque je ne sais plus combien de délégués envoient, de grands électeurs envoient la Géorgie au Congrès, mais du coup, c'est un État qui bascule. Donc, c'est très important. Donc, Trump n'est pas en train de faire pression comme on l'a fait croire. C'est-à-dire que comme les choses sont présentées, en fait, on croit que Trump demande aux fonctionnaires de magouiller. Il y a un tout petit écart, essayer de faire un truc pour que ça passe, en gros. C'est pas du tout ça qui est dit. C'est pas vrai. Donc, le procès qui est fait à Trump est un procès mensonger, est un procès injuste. C'est le même procès qui lui est fait aujourd'hui en Géorgie. Il se trouve que j'ai entendu un certain nombre d'audiences dans d'autres États concernant donc disons des audiences dans le cadre des suites judiciaires données aux fraudes. Ce qui m'a frappé, c'est que en gros tout ce qu'on entend de la part toutes les preuves qu'apporte le camp de Trump sont systématiquement ignorés. Non, non, ça compte pas. Nous, on a notre propre décompte, et est-ce que vous pouvez avancer ? Il y a des gens qui ont témoigné sous serment, hein, c'est quand même pas rien. Et aux États-Unis, le témoignage sous serment, c'est extrêmement important. Hein. Donc, ça a beaucoup de signification. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et malheureusement, eh bien, on se retrouve dans la situation suivante, où tout simplement, ça finit au dialogue de sourds. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manière dont les journalistes et les parties prenantes au reportage de LCI, qui bavent de haine, eh bien, sont vraiment, là pour le coup, pris en flagrant délit de mensonge. Et puis bien sûr, on arrive au 6 janvier. 6 janvier, vous savez ce qui s'est passé. Trump organise à Washington une réunion politique, où il va essayer sans succès d'obtenir que le vice-président des États-Unis, comme c'est la procédure, dont Michael Pence, ne valide pas au Congrès l'élection des grands électeurs. Ça, effectivement, ça ne se fera pas, mais il organise une réunion de tous ses partisans. Il faut savoir que beaucoup a été fait pour que les partisans de Trump ne puissent pas se rendre à Washington. Google, notamment, a fait disparaître les plans d'accès à Washington de ces logiciels de navigation. Alors, j'y étais pas, hein, mais il paraît que ça se serait fait comme ça. Toujours est-il qu'on arrive le 6 janvier, il y a une réunion, un meeting, comme seul Trump sait les faire, et il se passe ce que tout le monde connaît, au Capitole, c'est-à-dire que Trump va proposer de marcher en direction du Capitole.
Le discours est incroyable, enfin c'est un appel à la force. Il n'y a aucun doute que Donald Trump était décidé à marcher sur le Capitole, comme il l'a dit. Il est monté dans sa voiture, sa fameuse Beast, et il y a eu un conflit dur avec les gardes du corps qui ont dit « Monsieur le Président, non, on n'y va pas ».
Est-ce qu'il a imaginé que ça allait se passer comme ça? Ça, je ne sais pas. Mais on s'est dit, il a franchi un degré supplémentaire et vraiment, rien ne l'arrête.
Il y a une dimension presque de profanation, parce que le Capitole, c'est le sanctuaire de la démocratie américaine.
C'est comme une église, c'est un lieu sacré. C'est le bâtiment le plus haut dans la ville de Washington.
Imaginer qu'on va attaquer le Capitole, c'était juste absolument inconcevable. Donc en effet, les forces de l'ordre n'avaient pas pris de mesures particulières.
Ces gens-là sont d'un culot, mais monstre. Parce que la version de Trump, c'est pas ça. C'est que Trump a demandé que la sécurité soit renforcée au Capitole. Et comme ça ne dépendait pas de son ressort, mais du ressort de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, eh bien, ça a été refusé, ça a été négligé. Donc, je trouve que, alors vraiment, imputer ça à Trump, c'est, voilà quoi, ça dénote le sérieux du reportage et plus généralement des gens qui y interviennent. Alors ensuite, bon, ils nous font le pathos des églises et tout ça, de oui, le Capitole, c'est comme une église. J'aimerais bien voir parmi eux ceux qui s'indignent chaque fois qu'une église brûle en France ou est profanée en France. On les entend en général pas beaucoup. Voilà. Donc aller nous jouer du violon pour le Capitole, c'est quand même extrêmement gonflé, vous trouvez pas ?
Trump est rentré à la Maison Blanche. Selon ses proches, il est scotché devant les chaînes d'infos qui retransmettent l'événement, comme hypnotisé par les images d'une insurrection qu'il a lui-même provoquée.
Et c'est un homme heureux. Il adore ce qu'il voit.
C'est surréaliste. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est exactement passé ? Effectivement, il s'est passé un laps de temps. Ça, c'est certain. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. En réalité, on n'en sait fichtrement rien. Non seulement ils savent qu'il est resté scotché devant sa télévision, devant les chaînes infos, mais en plus que c'est un homme heureux. C'est juste n'importe quoi. C'est, ça c'est l'expression de la haine, en fait. Trump, c'est un homme d'ordre. Et d'ailleurs, il va appeler à l'ordre. Il va appeler les gens à quitter le Capitole. Et puis, bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi les gens sont rentrés au Capitole aussi facilement. On leur a quasiment ouvert les portes. Enfin, toutes les images, les vidéos le montrent. Ensuite, il n'y a qu'à eu 5 morts dans cette histoire du Capitole. 5 morts très suspectes. Donc, on est loin d'avoir fait toute la lumière sur ce qui s'est passé ce 6 janvier au Capitole. Et parallèlement, c'est pas avec des journalistes comme ça ou des pseudo-journalistes comme ça que la lumière est prête d'être faite. J'espère que ça viendra tout de même.
En ce début 2021, l'Amérique aspire à l'apaisement. Mais l'espoir de voir la page Trump définitivement tournée allait être de courte durée.
Attendez, j'aimerais comprendre là, qui c'est qui a cet espoir de voir la page Trump définitivement tournée Ça, c'est des gauchistes qui prennent leur désir pour des réalités ou je m'y connais pas. Ensuite, quand ils parlent d'apaisement, pardon, on fait mieux comme apaisement parce qu'il y a eu quand même immédiatement des procédures qui ont été entreprises pour des procédures d'impeachment contre Trump suite à ce qui s'était passé le 6 janvier. Donc, en fait, ces gens-là confondent apaisement et écrasement. Mais comme on le voit, ça va pas se passer comme ça.
Carl Battu refuse de quitter la scène. 6 semaines à peine après son départ de la Maison Blanche, il est à Orlando devant une convention de conservateurs.
Ce que nous avons vécu est unique. Personne n'a eu un tel parcours, un parcours autant couronné de succès.
Acclamé au cri de « On a gagné », il multiplie les allusions à son possible retour en 2024.
Vous vous rendez compte quand même, quelle outrecuidance. Il voudrait revenir en 2024. Ben nous y sommes. Et alors je ne sais pas comment tout ça va tourner, on y reviendra. Mais en tout cas, ces gens sont... ouais, ces gens sont d'un culot. C'est impressionnant, quoi. Vous vous rendez compte un peu, Trump veut revenir. De quel droit ?
Mais à Washington, personne n'a oublié les événements du 6 janvier. Au Congrès, une commission d'enquête est mise en place.
Nous devons chercher les réponses auprès de l'homme qui a déclenché tout ça.
Une commission bipartisane, présidée par Liz Cheney, une républicaine pur jus, puisqu'elle est la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush.
Alors je suis sûr que la subtilité ne vous a pas échappé. Donc quand ils disent que Liz Cheney est une républicaine pur jus, sous-entendu, c'est parfaitement impartial. Elle est parfaitement impartiale puisqu'elle est républicaine comme Trump. Alors c'est finement sous-entendu, enfin finement, ces gens ne sont pas très fins, mais bon, c'est sous-entendu, mais c'est bien ce qu'on vous demande de comprendre ici. Or, c'est pas ça qui se passe. Donc, effectivement, Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney. Dick Cheney, c'est Halliburton, c'est celui qui a rempli ses coffres de dollars avec la guerre en Irak, hein, puisque c'est sa boîte. Donc, lui, étant vice-président des États-Unis de George Bush, le junior, eh bien, il a malgré tout... Donc avec la guerre en Irak, il a pu remplir ses coffres puisque c'est lui qui équipait l'armée américaine. Bon, il y a eu des tas de magouilles. Ils ont fait ils ont volé du pétrole en Irak. Enfin, c'est vraiment Halliburton, c'est une véritable organisation criminelle. C'est vraiment une organisation criminelle. Et précisément, ce qui est reproché à Trump, c'est d'avoir... en fait, concrètement, ce qui est reproché à Trump, c'est de ne pas vouloir la guerre. Si vous prêchez la paix aux États-Unis, vous êtes mort. Au moins politiquement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kennedy. Alors, lui, il est plus que mort politiquement. C'est ce qui s'est passé avec Nixon. Et c'est ce qui s'est, d'une manière générale, passé avec Trump. On espère que c'est provisoire en tout cas, mais le pire des péchés pour cette bande de criminels américains, c'est le fait de vouloir la paix. Et donc là effectivement, parce que bizarrement on n'a jamais rien retenu contre les magouilles, déjà la guerre en Irak, les mensonges qui ont été proférés pour obtenir les financements pour la guerre en Irak, etc., le vol d'argent public lié à la guerre en Irak, enfin tout ça n'a jamais été, je dis pas, même pas jugé, mais juste remis en question. Et donc c'est Liz Cheney qui a effectivement de quoi peut-être avoir peur, et c'est pour ça qu'elle est la plus empressée à vouloir éventuellement prononcer un impeachment contre Trump, parce que pour eux, le retour de Trump serait véritablement une catastrophe. Alors, moi, je trouve que Trump a été extrêmement bienveillant pour essayer probablement d'adoucir un tout petit peu les maîtres de la mondialisation. Je ne peux pas les appeler autrement ici parce que je ne veux pas avoir d'ennuis avec la justice, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et donc, pour apaiser les maîtres de la mondialisation, il a fait beaucoup de concessions, à mon avis beaucoup trop, et on a vu comment il a été traité par la suite.
Les tribunaux l'attendent au tournant dans 4 procès à venir, à Washington, à New York, en Floride et en Géorgie. Au total, il est sous le coup de 91 inculpations.
Donald Trump, il a des procès au civil et au pénal. Quand on dit pénal, ça veut dire qu'il risque la prison.
Dans la balance, des dizaines d'années de prison et des centaines de millions de dollars d'amende. Autant de rendez-vous judiciaires dont dépend son avenir politique.
Donc nous sommes bien d'accord, il s'agit bien de procès politiques en réalité. C'est-à-dire que là, c'est de la persécution avec un seul objectif, empêcher Trump de revenir coûte que coûte à la Maison-Blanche.
Une fois encore, il crie au complot.
C'est une persécution politique digne d'un pays fasciste ou communiste. Je suis menacé de 400 ans de prison pour détenir mes propres documents présidentiels, ce qu'ont fait pratiquement tous les présidents. C'est l'une des théories les plus scandaleuses et les plus méchantes jamais exposées devant un tribunal américain.
Avec toutes ces affaires, on pourrait croire Trump hors jeu, rincé financièrement et politiquement. En réalité, c'est tout le contraire.
Ça le renforce systématiquement. Les sondages augmentent à chaque fois qu'il a des problèmes avec la justice.
C'est à se demander si c'est pas lui qui se poursuivrait lui-même tellement ça lui profite. En tout cas, il y a une chose que moi je comprends pas, c'est pourquoi persister dans une stratégie qui aboutit à des effets symétriquement opposés aux effets recherchés. Alors, vous me direz que abandonner les poursuites maintenant, ça équivaudrait peut-être à un aveu que c'était véritablement une stratégie qui n'avait rien à voir avec la justice. Je sais pas, mais en tout cas, faudrait pas que cette histoire dure trop longtemps, parce que ça va même plus être la peine de faire l'élection. Et puis, il y a autre chose qui a beaucoup déstabilisé les gauchistes et les mondialistes. C'est la dextérité avec laquelle les gens de notre courant de pensée, alors je ratisse large quand je dis ça, mais ce qu'ils appellent, par exemple en France, assez communément et abusivement la fachosphère, d'une manière générale, la dextérité avec laquelle le courant conservateur a réussi à profiter des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui les a beaucoup déstabilisés, et là-dessus, Trump a été un maître absolu, il faut bien le dire.
Il ne s'informe plus que par les réseaux trumpistes. C'est-à-dire, ils vont sur Internet, ils vont sur tous les réseaux sociaux.
Qui les enferment, au fond, dans beaucoup de fake news, et d'où il ressort toujours que Trump est le héros qui va les sauver.
Pour s'adresser à eux, Trump n'utilise pas les médias traditionnels, les grands journaux considérés comme vendus à la gauche. Son arme, ce sont les réseaux sociaux.
Alors, c'est très bien de dénoncer la bulle informationnelle dans laquelle s'enferme telle ou telle personne, et notamment les supporters de Trump, ou ses partisans. Mais je suis désolé, mais les gens qui passent leur vie à regarder BFM ou LCI sont aussi enfermés dans une bulle où il y a finalement autant de fake news. Donc, je savais que jusqu'à récemment, Biden était en pleine santé et qu'il était complotiste de dire qu'il allait pas bien, qu'il était gâteux. De même qu'il est complotiste de dire que la Russie est supérieure militairement sur le terrain en Ukraine. De même qu'il est complotiste et que c'est une fake news de dire que Poutine n'a pas 14 cancers, etc., etc. Bon, la liste n'est hélas pas exhaustive, mais vous m'avez compris. En réalité, c'est très bien de dénoncer, et personnellement, je m'efforce de ne pas trop m'enfermer justement dans une espèce de bulle confortable informationnelle. J'essaie d'aller voir un peu ailleurs de temps en temps, mais là, en fait, c'est assez gonflé. Parce que eux font exactement la même chose en réalité, c'est-à-dire qu'ils ils sont et vous savez ça se voit parce que ils sont vraiment persuadés d'avoir entièrement raison. Ils sont persuadés. Enfin, c'est des gens qui ne se posent absolument aucune question sur ce qu'ils pensent. Tout ça fait que ces gens, en fait, voilà, vous pratiquent encore une fois l'inversion accusatoire.
Je dis souvent, Trump, il a réussi à faire dans la société américaine ce que nous on appellerait la liaison entre la manif pour tous, la protection identitaire, et les gilets jaunes, la protestation économique.
Je crois que j'ai compris ce qui me faisait aimer Trump, en fait. C'est pas tellement Trump lui-même. Trump, il fait du Trump, et il est, il roule pour lui, il roule pour l'Amérique, il roule pour des intérêts qui peuvent être à certains moments symétriquement opposés aux miens. Mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles j'ai pour Trump une affection particulière, c'est que comme ça vient d'être démontré à l'instant, il est un concentré de ce que ces gens-là détestent. Et ça, c'est bon.
Ah, il n'y a personne au sein du Parti républicain qui peut affronter Donald Trump. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a un an, on n'aurait pas parié là-dessus.
Tel un rouleau compresseur, Trump écrase tout sur son passage.
Maintenant, vous n'auriez pas parié là-dessus, parce que vous prenez vos désirs pour les réalités, en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses comment elles se passent, mais comment vous voulez qu'elles se passent. Et vous ne prenez pas la société comme elle est, mais comme vous voudriez qu'elle soit. Et forcément, on a des surprises. Les gens, si on part du principe que l'élection, ce que je crois, hein, l'élection de 2020 a été volée. Quand une élection est volée, c'est l'électeur qui est volé, c'est pas le candidat qui est volé. Enfin, dans une moindre mesure, si, mais c'est d'abord l'électeur qui est volé. Donc, si Trump a obtenu, ce qui semble être le cas, la majorité en 2020, forcément cette majorité s'est sentie flouée, trahie. Et elle s'est surtout sentie flouée et trahie par le Parti républicain, qui a, dès qu'il a pu, lâcher Trump, parce que Trump casse les codes, Trump... Et c'est ce qui explique la véritable OPA que Trump a menée sur le Parti républicain. Et puis, force est de constater que, en fait, voilà, tout ce qu'on a dénoncé, le vol de l'élection... la mise en place à la présidence d'un sénile, tout ça a fait évidemment, tout ça a abouti à une sorte de retour de flamme, de retour de bâton, parce que vous pensez bien que s'ils nous ont dit avec la plus belle assurance qu'on se trompait, que Joe Biden était parfaitement sain en 2020, alors qu'il savait parfaitement qu'il était complètement... il était déjà dans un état absolument pas possible, eh bien, vous imaginez bien que dans ces conditions, s'ils ont menti là-dessus, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas menti sur le reste. Donc, on va le faire clair. Bon, Biden est gâteux depuis des années. Moi, déjà, en 2020, je l'appelais Brejnev 2.0 dans mes articles sur mon blog, ici, dans ces pages. Donc, voilà, les choses sont plutôt claires. Donc, s'ils ont menti là-dessus, c'est bien évident qu'ils ont menti sur l'élection. Parce que le fait est là, Joe Biden, avec l'excuse du Covid, n'a pas fait campagne. Il a été élu, il a fait un véritable... c'est un coup d'État de l'État profond. Ils ont mis un gâteux qu'ils pouvaient manipuler. Malheureusement, le gâteux s'est aggravé. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi, je n'arrive pas à lire leur stratégie. C'est-à-dire, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ils ont voulu le remettre. Alors, les gens me disent, il n'y avait personne. Donc, on n'allait pas me raconter des bêtises. Il n'y avait pas mieux que... Le Parti démocrate n'a pas mieux que Joe Biden, aujourd'hui, à proposer à ses électeurs. Moi, c'est quand même grave. Donc non, c'est pas vrai. Il y a certainement d'autres raisons, probablement qu'on les connaîtra un jour, j'espère. Mais en tout cas, persister à miser sur un cheval comme Joe Biden, c'est absolument ridicule. Et bien malgré tout, c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, bien ils prennent le retour de flamme, c'est-à-dire évidemment, vous imaginez bien que n'a pas pu faire campagne en 2019 et en 2020, pensez bien qu'en 2024, il ne va pas pouvoir faire davantage campagne, puisque son état, par voie de conséquence, s'est aggravé. Donc, je veux dire, c'est complètement... tout ça est complètement, complètement ridicule. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, ils essaient toujours de minimiser, hein, ça, alors, parce que là, ça commence à se voir. Enfin bon, quand ils parlent de bourdes, non, ce n'est pas des bourdes, c'est la déficience intellectuelle au plus haut niveau de l'État. Je veux dire, quand ils confondent l'Ukraine et l'Irak, bon, De toute façon, pour lui, peu importe, du moment que le sang coule en torrent, ça lui va. Hein. Mais confondre l'Ukraine et l'Irak, confondre Macron et Mitterrand, Mitterrand qui, je rappelle, est mort en 1996. Donc ça fait presque 30 ans, hein. Ça fait 28 ans exactement. Ça va faire, ça fait 28 ans cette année. Donc si vous voulez, voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, Brejnev avait davantage de tenue, hein, sérieusement. Alors, évidemment, maintenant, ils peuvent plus le cacher. Alors, ils sont là, mais ils n'avoueront jamais qu'ils ont menti, par contre.
Et puis, il y a ces bourdes, comme lorsqu'il confond l'Ukraine et l'Irak. Poutine perd la guerre en Irak, il perd la guerre chez lui. Ou Mitterrand et Macron. Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire de France. Ou quand il se met à bredouiller en pleine conférence de presse avant d'annoncer qu'il va se coucher.
Je ne sais pas vous, mais moi je vais aller au lit.
Quand je parle avec des Américains, des démocrates, tout le monde me dit il est trop vieux. Il est trop vieux.
Ils le savent. Ils sont effondrés à chaque petit dérapage de Joe Biden.
Donc ça lui donne une image quand même très affaiblie par rapport à Donald Trump qui est quand même une bête de scène.
Écoutez, c'est bien de le reconnaître que Trump est une bête de scène. Mais c'est pas qu'une bête de scène. Ça a été un président, sans aller jusqu'à dire que c'était un bon président, je sais pas, il ne m'appartient pas de dire ça. Ça a été en tout cas le moins mauvais président que les États-Unis aient eu depuis longtemps. Mais tu les vois, ils sont emmerdés. La bouche à merde, là, comment elle s'appelle, la Bacharan, elle parle de... Je pouvais pas m'empêcher de faire de l'allitération, je suis désolé. Elle parle de petits dérapages. Non, c'est pas des petits dérapages. C'est de graves problèmes cognitifs chez un type qui a le bouton nucléaire. Voilà, c'est tout ce que c'est. C'est pas des petits dérapages. C'est je veux pas être trivial, mais il fait sous lui quoi, Biden. Donc c'est quelque chose de c'est ridicule. Et je crois que ça donne une image des États-Unis. Vraiment une image de fin de règne.
À moins d'un coup de théâtre judiciaire, tout indique que les États-Unis s'apprêtent à rejouer le match de 2020 contre la volonté d'une majorité d'Américains.
Vous avez une seule chose sur laquelle 70% des Américains, toutes tendances confondues, sont d'accord. Ils ne veulent pas de cette répétition du duel Biden-Trump.
Là, qu'on soit démocrate ou républicain, le choix n'est pas terrible en novembre prochain. C'est aujourd'hui face à un dilemme pareil que se trouvent les Américains. Donc c'est assez peu rassurant pour l'avenir des États-Unis et au-delà, évidemment, l'avenir du monde.
Et bien entendu, nous terminerons ce reportage par un mensonge. C'est-à-dire que, enfin pas moi, moi je mens pas, mais le dernier extrait de ce reportage évidemment est un mensonge. Les Américains ne veulent pas voir rejouer le match Trump-Biden. Non, ils veulent pas voir Biden. Parce que s'ils ne voulaient pas revoir le match Trump-Biden, il suffisait aux républicains de d'élire quelqu'un d'autre aux primaires. Donc c'est un mensonge. Quand on vous dit, ouais, non, les Américains, c'est inquiétant qu'il n'y ait que le choix contre Trump et Biden, c'est tout. Eux ne veulent pas voir Trump. Ils aimeraient bien, ça leur irait, hein, si Biden revenait, il n'y a pas de problème. Enfin là, ça commence à vraiment trop se voir. Mais voilà. Mais en réalité, eh bien, ils mentent, les Américains. Ils vous disent, les Américains, toutes tendances confondues. C'est faux, bien évidemment, puisque les républicains, je le répète, ils n'ont pas élu, ils ont plébiscité Trump. Trump a mis à 210 30 points de sondage dans la vue, pas de sondage, de primaire, 30 points dans la vue. Ça a été quelque chose c'était un cauchemar, cette campagne de DeSantis. DeSantis a dû jeter l'éponge. Je veux dire, et c'était lui le mieux placé. Je parle pas des autres, les Nikki Haley et toute cette gagne, comme diraient les Canadiens. Non, c'est pas sérieux. évidemment, ce reportage est un tissu de mensonges. Et, mais les mensonges, eh bien, vous avez, entre autres, pas seulement, mais vous avez le balado de la réplique pour répliquer. Alors voilà, il me reste à vous remercier de votre attention, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. J'ai fait des progrès au niveau de la gestion du temps. J'ai essayé de, voilà, de me tenir dans le cadre de l'heure que je m'étais fixée. Bien entendu, vous feriez plaisir à Joe Biden si vous ne partagiez pas, et à Nicole Bacharan, et à toute la clique, vous leur feriez plaisir si vous ne partagiez pas ce podcast, si vous ne le, voilà, ne le relayiez pas sur vos réseaux sociaux, comme vous avez, en tout cas certains, la sympathique habitude de le faire, et je vous en remercie. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve, ma foi, le mois prochain. Alors, avant de vous dire au revoir pour de bon, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités dans un podcast ou une émission que vous avez entendue. N'hésitez pas à prendre contact, soit en privé, soit en commentaire. Et si je peux, eh bien, j'essaierai de traiter ces podcasts. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite un bel été et je vous dis au mois d'août. Salut !